docteur en sociologie clinique et études de genre. Elle est chercheure associée au laboratoire de changement social et politique à l'Université Paris-Cité et au laboratoire langage, discours, représentation, le LADIREP, à l'Université d'État d'Haïti. Elle est également coordinatrice du collectif international Groupe de recherche d'enseignement et d'intervention sur les migrations haïtiennes, le GREMI. Et après un travail, une thèse sur le travail, la migration et l'articulation des rapports sociaux, elle travaille actuellement sur les questions éducatives, notamment avec la branche clinique du Centre de recherche éducation et formation à l'Université de Nanterre, le CREF.
Ça va ?
Alors, mon cher Pascal,
oui.
J'ai combien de temps ?
Il est
17h20.
20 minutes.
Bon, ok. Merci. Oui, donc c'était ça ma grande question. Est-ce que la recherche peut changer ? Et j'ai posé cette question à partir d'une enquête au plus près des personnes dominées. Comment écouter des personnes en grande difficulté ? J'ai donc fait, comme vous l'avez compris, ma thèse doctorale sur la migration et le travail des femmes haïtiennes. Je suis partie d'un constat tout simple. Des femmes paysannes haïtiennes partent en ville et là, elles deviennent travailleuses domestiques. C'est leur travail qui permet aux femmes des villes de s'investir dans un autre type d'activité plus valorisée et même d'accéder à la migration internationale. Sauf qu'en France, par exemple, ces femmes haïtiennes qui étaient patronnes de travailleuses domestiques quand elles étaient dans leur pays, deviennent à leur tour travailleuses domestiques, travaillant donc soit comme femmes de ménage, nounous, etc., en France. Et bien sûr, c'est le travail de ces femmes-là qui permet à d'autres femmes, les femmes françaises, de s'adonner à une activité professionnelle plus valorisée et d'accéder à beaucoup plus d'égalité avec les hommes. À partir de là, j'ai fait donc l'hypothèse de l'existence d'une chaîne de migration, de travail, de substitution où s'articulent différents rapports sociaux, les rapports sociaux de sexe, de classe, de race, les rapports entre les pays du Nord et les pays du Sud qui sont au cœur de la migration, et même des rapports entre l'urbain et le rural quand on considère certains pays particuliers comme Haïti. Tout ça au cœur de la mondialisation néolibérale que vous appelez souvent hypermodernité. Et au cœur de tout ça, on trouve plein d'arrangements à la fois familiaux, sociaux et internationaux. Et les femmes essayent de devenir sujettes dans tout ça. Elles essayent de faire quelque chose de ce que ces rapports sociaux font d'elles. Donc, j'ai fait ma recherche à la fois sur les rapports sociaux, dans une perspective assez politique, hein, en sociologie clinique, et aussi sur le vécu individuel de ces personnes. Il s'agissait à la fois de voir la violence de ces rapports sociaux et aussi les démarches de subjectivation de ces femmes dans une perspective de changement social. J'ai adopté une approche croisée articulant la sociologie clinique et les recherches féministes, qui a marqué aussi ma méthodologie, centrée surtout sur des entretiens cliniques en groupe ou bien des entretiens individuels. Et j'ai fait aussi des activités d'observation, surtout ce qu'on appelle l'observation multisite, pour mieux comprendre la migration de ces populations. Donc j'ai beaucoup utilisé des histoires de vie avec des outils comme les arbres généalogiques. J'ai utilisé aussi le sociodrame, le photolangage et aussi d'autres techniques qui étaient plus adaptées à la population, aux populations en question, puisqu'il y en avait 5, leur niveau d'études, le cadre de vie, la spécificité de l'habitat, le rapport au temps et à l'espace. Toutes ces choses avaient des impacts sur la manière de se raconter ou de raconter son histoire. Donc, il a fallu constamment s'adapter. Donc, j'ai adopté une approche à la fois épistémologique et méthodologique qui permet de donner la parole à ces femmes, peu importe, indépendamment de leur niveau, etc. Une première victoire quand même, en termes de changement social que peut apporter la recherche, c'est que j'ai pu répondre à l'invisibilisation de ces femmes. Il faut comprendre que dans la science, même si on analyse entre guillemets les personnes, il y a des personnes qui sont plus ou moins oubliées par la science. Donc j'ai pu donner la parole à ces femmes, reformuler leur point de vue, comme l'a si bien expliqué mon collègue tout à l'heure. J'ai pu les faire exister dans la science. Je leur donne même une place ici avec nous. Donc, c'est une première victoire. Oui, la recherche peut changer quelque chose, peut apporter quelque chose à une population invisibilisée. Une deuxième victoire, c'est ce qu'on va appeler le point de vue situé. Moi, j'ai fait cette recherche en ayant été moi-même une femme migrante, racisée, comme vous pouvez le voir, peut-être, ou pas, ou autre, etc.
Peut-être.
Bon, on ne sait jamais. Donc, du coup, tout ça, il fallait... sachant que de plus en plus, il y a beaucoup de recherches depuis les années 70, par exemple, qui développent, qui défendent l'idée de donner la parole aux personnes minoritaires, quoi. Et que parce que ça peut apporter quelque chose de plus à la science. Donc, le fait de faire ce type de travail en étant à plusieurs niveaux une chercheuse minoritaire moi-même, c'est aussi une deuxième victoire qu'a apporté cette recherche, comme quoi la recherche peut changer quelque chose. Mais malgré tout, je me suis constamment posé cette question. Mais qu'est-ce que ça apporte à ces femmes-là? Qu'est-ce que... Ouais, je suis migrante, je suis à l'université, je fais une thèse. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à une autre femme migrante qui n'est pas à l'université, donc qui ne fait pas une thèse? Qu'est-ce qu'un récit de vie peut-il apporter à une femme pauvre du pays le plus pauvre du monde? C'est souvent comme ça qu'on appelle Haïti. Ce n'est pas vrai, mais c'est ce qu'on dit. Donc, est-ce que parler à une femme haïtienne, lui donner la parole dans une recherche, peut vraiment lui apporter quelque chose? Comment justifier le fait pour moi-même de faire de la recherche et pas autre chose? Alors que je côtoie des personnes qui ont un vécu aussi éprouvant, pourquoi faire de la recherche et pas autre chose? Ça me donnait mal au ventre, franchement. Et puis la culpabilité. Pourquoi moi, je bénéficie quand même d'un certain mieux-être qui me permet d'être à la place de celui ou de celle qui se penche sur le lit et qui n'est pas allongé, si vous l'avez bien compris? Faut-il donner le pain ou le micro? Faut-il, ou bien plutôt le magnéto, on va dire. Hein? Est-ce que je leur donne à manger ou est-ce que je les écoute? Donc, toutes ces questions, je me les suis posées. Déjà dans ma première recherche sur la sexualité des filles adolescentes dans les familles pauvres, j'ai fait cette recherche en étant travailleuse parallèlement dans une fondation pour la santé de la reproduction et l'éducation familiale. Et c'était toujours ça. Est-ce qu'il fallait que je forme ces jeunes filles ou bien que je les écoute? Est-ce que je les conscientise sur l'importance d'utiliser un préservatif, par exemple, ou bien je les écoute parler de leurs pratiques sexuelles à risque? Et si elles tombaient enceintes entre deux entretiens, quoi? Donc, je me posais constamment toutes ces questions. La tentation de faire au lieu de comprendre était constamment dans ma tête. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais finalement, bah, je réponds à la question, mais ma recherche n'a pas changé grand-chose. Ceci dit, ces femmes ont pu trouver quelques trouvailles cumulées qui méritent quand même qu'on s'y attarde un petit peu. En plus de tout ce que ça a pu m'apporter à moi comme chercheuse de faire cette recherche-là, comme personne, en plus de tout ce que ça peut apporter à la science comme possibilité de comprendre autrement un phénomène ou bien de développer une analyse critique sur certaines méthodes, je pense que ça a quand même apporté certaines choses à cette femme, à ces femmes ou certaines d'entre elles. D'abord, au niveau de ma manière de faire de la recherche, j'ai osé dire que j'ai un petit peu transformé mon offre de recherche à une demande. Parce qu'au début, les femmes étaient toujours très sceptiques quand je leur proposais, par exemple, d'analyser le travail domestique, etc. Plus elles étaient défavorisées, moins elles voyaient l'importance de s'arrêter sur tant de misère, de pauvreté, d'aller voir au plus près de ce que cache une marmite, une serpillière, le cri d'un enfant ou bien le regard provocateur d'un homme. Ça, c'est banal. C'est le quotidien, c'est le vécu. Pourquoi s'y attarder? C'est la vie, comme on le dit en créole, c'est la vie. Bah, pourquoi en parler, quoi? Et pourtant, à la fin des recherches, soit en groupe ou en entretien individuel, les femmes ont systématiquement pris le temps de m'expliquer comment ça leur apportait des choses, comment il y avait même un intérêt politique à tout ça. Elle me disait souvent que si dans ce pays, les politiciens, par exemple, faisaient comme vous, venaient nous voir, écoutaient ce qu'on leur dit, voyaient de plus près ce qu'on vit, eh bien, ça aurait changé le pays, quoi. Donc, il y avait beaucoup de satisfaction et de remerciements à la fin. Et vous savez bien que j'aime tout ça. Donc, et il y en a aussi qui me... Par exemple, quand j'allais en Haïti travailler avec les femmes paysannes et tout, il y en a qui me remerciaient de venir d'aussi loin de la France pour venir les écouter. Pour elles, c'était très valorisant. Et heureusement que finalement, je n'ai pas forcément caché que je vivais en France et plus tout le temps en Haïti. Et puis, il y avait la question du sens aussi, comme l'a si bien développé Jacqueline Barus-Michel, sur ce que ça apporte la recherche clinique, aider les personnes à accéder à un autre sens, à mettre du sens sur leur vécu. C'est comme si la recherche leur permettait de voir autrement ce qu'elles vivaient. Souvent, elles me disaient, tu nous as appris ça, tu nous as dit ça. La dernière fois, tu as dit ça aussi dans ton intervention. Mais finalement, ce n'est pas moi qui parlais. Je leur disais, mais moi, j'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai rien appris. C'est elles qui ont parlé, qui ont appris, qui ont démontré. Sauf que comme je les ai écoutées aussi bien cliniquement, de la connaissance a pu s'émerger de leurs discours, de leurs pratiques quotidiennes. Et là, on était en plein dans une sorte de... dans la co-construction du savoir, la production d'un discours sur l'expérience. C'était un peu la sociologie de la banalité, comme je l'ai défendu dans ma thèse, mais ça a apporté du savoir, et du savoir qui venait pas forcément de moi, mais de ces femmes-là. Et ça, c'était intéressant aussi. Et puis, il y a l'effet groupe. Pour les fois où j'ai fait les entretiens en groupe, eh bien, souvent, j'ai pu effectivement articuler des entretiens individuels et des entretiens en groupe. Et en plus de tous les échos, hein, le fait que moi, je me rends compte que l'autre vit la même chose que moi et que tout n'est pas dans ma tête, comme aime bien le dire Vincent souvent, le groupe permettait d'avoir un autre discours sur les choses. Beaucoup plus de recul, beaucoup plus de questionnements, une manière plus approfondie d'analyser les choses. C'est comme si le discours était plus éprouvé quand il était recueilli en groupe qu'en séance individuelle. Bien sûr, il n'y avait pas que le groupe, je posais aussi mes petites questions. Moi, je suis entre l'approche, ce que j'appelle l'approche zéro et l'approche marteau. L'approche zéro, c'est celui qui écoute et, entre guillemets, qui accepte tout, qui ne critique pas, voilà. Et l'approche marteau, c'est celui qui critique constamment, qui dit « Ouais, mais t'as pas raison, etc. » Donc moi, je suis un petit peu entre les deux. J'écoute beaucoup, mais je pose aussi pas mal de petites questions, des questions un peu impertinentes parfois, et des remarques presque provocatrices. Je fais aussi ma petite révolte parfois. Hein. Je me rappelle de ces femmes qui parlaient beaucoup du mari et de la femme qui piquait leur mari et tout. Mais c'était toujours une femme qui piquait un mari. Et moi, je dis, mais ton mari, là, c'est un objet qui se laisse prendre comme ça ou des choses comme ça, quoi. Et qui les portait à... Bah, pourquoi c'est les rivales qu'on critique et pas le mari infidèle, quoi. Mais j'aime bien ce qui vient après, parce qu'à partir de ces moments provocatrices, je vais aussi avoir d'autres informations. Une femme qui va me dire, oui, mais on a 6 enfants ensemble, bah, c'est plus facile pour moi de m'attaquer à la rivale qu'à lui, parce que c'est quand même le père de mes 6 enfants, voilà. Et donc, ça peut partir dans tous les sens. Une qui me demande, mais et toi, tu ferais quoi? Et moi qui réponds, ben, on n'est pas obligé de vivre avec des hommes non plus, hein. Vous voyez, j'étais très jeune et je me permettais comme ça dans les groupes de faire des remarques aussi révolutionnaires. Et dans les groupes, c'était surtout aussi le plaisir d'être ensemble, en plus du besoin de parler, le besoin d'être écouté. Eh bien oui, j'ai offert de l'écoute à ces personnes et elles en avaient besoin. Y compris pour les femmes françaises patronnes qui employaient une migrante haïtienne. Par exemple, une personne qui m'expliquait qu'à la fin de sa première rupture avec une nounou, elle a dû aller voir une psychologue parce que c'était tellement dramatique pour elle. Et à la fin de cette dernière rupture avec cette nounou haïtienne, elle m'a trouvée. Et que donc, je l'ai écoutée. Et pour dire que finalement, ça lui apportait le même soulagement, le même mieux-aller, la même... impression d'avoir été écoutée, etc. C'est comme si que finalement moi j'avais une possibilité d'écouter tout le monde, même les dominants. Et je me suis dit, ben oui, ça c'est aussi l'effet de la clinique, quoi. Et le fait de ne pas être dans le jugement, comme le dit Spinoza, ne pas juger mais comprendre. Cependant, ça m'a quand même attiré l'attention. Si je peux être un soulagement pour une personne qui s'est mal comportée avec sa nounou, c'est que ça me fait poser des questions par rapport à la posture que j'ai eue dans mon écoute. Que les personnes osent me raconter certains faits ou osent m'avouer certaines idées, je me suis dit, mais pour qui elle me prend pour me raconter ça? C'est toute la question du transfert. Dans quelle place elle me met pour penser que moi je peux entendre ça? Elle aurait dû me le cacher, pourquoi elle me dévoile ça? Et puis pareil, hein, comme je vous ai dit, hein, je provoque, je pose des questions, etc. Mais des fois je me dis, mais peut-être que je n'en ai pas posé suffisamment si elle se sent soulagée à la fin. C'est quoi pourquoi je lui fais cet effet-là? C'est comme si j'avais envie d'avoir un peu plus de marteau. Et même dans mes analyses, dans ma thèse, quand j'analyse les choses, même mon jury m'a dit, mais vous êtes vraiment... vous avez eu la capacité d'écouter et d'analyser finement les choses, même les choses qui étaient les plus, on va dire, odieuses, etc. Il y avait par exemple cette idée de différence culturelle qu'une patronne française utilisait pour altériser sa nounou haïtienne, pour expliquer, bon, elle comprend rien, elle est bête, etc. C'est la différence culturelle, etc. Et malgré tout ce que ça me coûtait à moi aussi, hein, d'écouter tout ça, eh bien, j'ai pu finalement écouter cette femme, analyser son discours et tout. Alors, il y a quelqu'un, une chercheuse, qui a écrit un texte qui a un titre aussi bizarre, « Comment faire de la recherche quand on n'aime pas ces indigènes ?» Je n'ai pas dit que je détestais ces personnes, mais il y avait des choses que je détestais, que j'avais entendues. Mais j'ai pu quand même faire de la recherche avec ces personnes-là. Alors, mesdames, messieurs, je me présente. je ne suis pas seulement l'experte des personnes dominées, mais aussi celle des personnes dominantes. Je peux faire ça. C'est aussi ça, la clinique. C'est pouvoir écouter, comprendre, ce qui ne signifie pas justifier non plus. Parce que pourquoi on écoute les personnes, c'est aussi dans une perspective de changement social. C'est surtout ça qu'il ne faut pas perdre de vue. On écoute pour comprendre, pas pour justifier, et aussi pour aider les personnes à comprendre ce qu'ils font, etc. Puis il y avait aussi la question du temps. Est-ce que le temps pris dans les entretiens, c'était un temps perdu ou un temps pris? Pour moi, c'était difficile au début même de proposer un cadeau d'entretien à quelqu'un. Des femmes qui courent quand même entre 1000 tâches, une patronne française qui court entre le métro et le dodo de son enfant, une femme migrante haïtienne qui est entre une banlieue et le 16e, toutes ces femmes que j'écoutais qui couraient tout le temps comme ça, ben, le temps partout, toutes les femmes que j'écoutais, il y avait un truc qui leur faisait défaut, c'était le temps. Donc comment proposer à une femme déjà très débordée de s'asseoir pour faire des entretiens? Et je m'excusais constamment de prendre leur temps, et je leur témoignais aussi de la reconnaissance en leur disant « Mais oui, merci de m'avoir accordé du temps pour travailler sur cette chose. » Et pourtant, à la fin, ce que j'ai compris, c'est que finalement, même si j'étais culpabilisée par rapport à tout ça, eh bien, ces femmes étaient contentes de pouvoir s'asseoir, de pouvoir se poser. Je leur ai offert une chaise, mais elles ont pris cette chaise-là, même s'il y avait des enfants à côté qui disaient « Maman, c'est quand tu vas préparer le repas ?» Et ce n'était pas forcément des bébés, hein, je peux vous dire, c'était des grands, qui disaient « Maman, est-ce que... » voilà. Et puis, il y avait aussi des « Ah, j'ai oublié d'aller chercher mon enfant, etc. » Donc, effectivement, il y avait la question du temps, mais ces femmes avaient envie, elles avaient besoin, elles étaient contentes de s'installer tranquillement, de prendre ce temps, et à la fin de se dire que ben, faire autre chose finalement, ben, ça fait du bien. Et si la recherche peut proposer ça, si la recherche peut faire autant de bien que quand on va à un studio de beauté ou quand on passe un petit temps sur la plage, ben, très bien, la recherche a quand même servi à quelque chose. Et puis, en plus de toutes ces choses, j'ai eu quand même des femmes qui voulaient faire des actions politiques à la suite des travaux qu'on a fait ensemble. Des femmes qui voulaient par exemple s'en prendre aux responsables de... Combien de... Non,
c'est
ça
bon,
va.
C'est bon, c'est bon.
Je suis à trois phrases avant ma conclusion. Par exemple, en Haïti, les filles ont des cheveux souvent crépus, etc. Bon. Mais on est obligé de les coiffer tous les matins. Et c'est pas très facile. Et les femmes se sont mises, à partir du travail domestique, à questionner cette question de l'obligation de coiffer les filles tous les matins, ce qui est un problème de temps pour les mamans et un problème de douleur aussi pour les filles. Et quand on sait que les femmes qui imposent ça dans les cadres scolaires, ce sont des bonnes sœurs qui n'ont pas d'enfants, donc elles avaient presque envie de faire une manifestation pour aller demander à ce que les coiffures ne soient pas exigées tous les matins comme ça. Et puis, à Paris, par exemple, avec les femmes haïtiennes, on avait travaillé en groupe et à la fin, elles voulaient que le groupe devienne une association de femmes haïtiennes en France. Il y en a qui ont pris de grandes décisions personnelles, quitter un travail, migrer vers un autre pays, d'Haïti à la République dominicaine, à partir un peu de tout ce qu'on a travaillé ensemble sur leur histoire et en fait qui choisissent de partir et qui m'envoient un message pour me dire oui, je vais partir, etc. Pour moi, finalement, cette recherche, finalement, pour le changement social, quel changement social? On n'a rien changé du tout. Et pourtant, ça a quand même eu des effets sur moi et ça a quand même changé quelque chose. Ça a été utile à ces femmes, donc ça a été utile quand même. Voilà, c'est ce que je pourrais dire comme conclusion.
Eh bien, merci beaucoup, Rosalie. Donc, nous disposons de 10 petites minutes.